Cascodeur Podcast, épisode 236. Asimov et le cycle Fondation. Enregistré le 10 juillet 2020. Pour aider les cascodeurs dans leurs frais, allez sur patreon.com/lescascodeurs, patreon.com.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 236 des Cascodeurs. Très content de vous retrouver avec mes amis Antonio et Guillaume.
Bonjour,
bienvenue à vous les amis.
Salut les amis.
Ça faisait longtemps, je suis content d'être là.
Ça faisait longtemps. On a pas mal de news d'ailleurs, du coup, cette fois. On va commencer par une première news un peu triste, pour aller dans le plus gai après. Hein. le plus triste, c'est l'annonce de la mort de l'architecte de Java-E, Bill Shannon. Donc, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, vous.
Moi, Antonio, personnellement, peut-être. Je le connaissais pas. Emmanuel le connaissait. Antonio, toi, t'as déjà.
Moi, je le connaissais. Je le connaissais. Alors, je vais pas dire assez bien. C'était pas le pote qui dînait à la maison, mais on était beaucoup ensemble autour de toute les mailing lists. Hein. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai qu'on s'était pas mal vu, surtout à Java One, je crois, à DevOps Belgique. Et dans tous les mille et un bofs autour de Java E. Alors, Bill Shannon, souvenez-vous, c'est complètement fou, mais Roberto Cininci, c'était le spec lead de Java E6, qui est décédé aussi, il y a peu de temps. Ouais. Et Bill Shannon a pris après le lead sur Java E7, Java E8. Et il était en binôme sur certaines specs avec Linda. Linda de Michel, voilà, oui. et Linda, co-spec lead aussi de Java E, JPA, etc., etc. Donc, Bill a énormément bossé, spec lead Java E 7 et Java E 8. Donc, ça fait au moins, 6 ou 7 ans, quoi. Et il était déjà impliqué dans Java E 6, Java E 5. Donc, il connaissait vachement bien la plateforme. C'était humainement un mec assez discret. Il faisait très peu de conf, assez discret, assez sobre, assez consensuel, parce que vous imaginez bien que quand vous êtes spec lead de Java E, c'est pas facile. Hein, vous avez IBM, vous avez Oracle, vous aviez Sun à l'époque, Red Hat, tout le monde est là et hyper consensuel et puis smart. Smart, Java E, on aime, on n'aime pas, mais il y a toujours un contexte. On est en train de parler de 97-98, lorsque la plateforme se monte. Il y a du Corba, donc on fait des EJB, quoi. Enfin, voilà, hein, c'est que tout a une histoire. Et donc, toujours au fait de l'histoire. Et quand il y a eu des mouvements et des mises à jour, Java E 8, Hibernate, Spring. Enfin, voilà, Bill va toujours accompagner tout ça. Voilà. Il me semble d'une note un peu plus perso, c'est pas le Covid qui l'a emporté. A priori, ça serait un cancer. À ce que j'ai lu sur le blog de Reza. Bon.
Rest in peace, Bill.
Merci, l'artiste. Ouais.
Alors, nous allons passer maintenant un peu plus gai. Donc, les langages notamment, et notamment des nouveautés de Java 15 avec les classes SILD. Donc, je ne sais pas qui a lu l'article.
D'ailleurs, comment traduire classe SILD? Scellé, c'est ça?
Oui, scellé.
Les classes scellées, elles arrivent déjà en Java 15 en septembre.
Donc, au mois de septembre, oui. Il
faut toujours s'habituer à ce rythme
effréné.
Donc, c'est des classes ou des interfaces qui restreignent qui peut les étendre ou les implémenter. C'est un peu comme les enum, les classes SILD, vu que ça représente un nombre limité en fait de valeurs possibles. Ça permet de coder aussi un peu en termes d'exhaustivité, c'est-à-dire si c'est pas A ou B, alors c'est C, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres alternatives de classe ou d'instance, pour ces valeurs-là. Et avec ça, du coup, on peut faire aussi, comme on retrouve dans des langages fonctionnels, par exemple, des choses comme des types sommes ou des types produits, aussi des structures de données algébriques, comme on retrouve dans des langages genre Haskell, etc. Et du coup aussi, ce qui est intéressant pour les développeurs qui, eux, créent ces classes ou interfaces SILD, c'est que ils ont le contrôle de la hiérarchie de ces interfaces et contrôler les implémentations qui sont autorisées, quoi. Donc ça.
Mais c'est bien ça. Je pose la question parce que j'ai un mauvais souvenir dans Java de la classe URL qui était final et que tu pouvais pas étendre et ça nous a causé tellement de problèmes. Alors je sais pas si le contexte est le même là.
Ouais, je pense qu'il faut pense peut-être plus à ça comme les énums, les choses comme ça, où justement tu as les aspects programmation fonctionnelle, parce que sinon c'est vrai que je pense par exemple à, alors je sais plus ce qu'il en est, mais Kotlin par exemple par défaut mettait les classes justement, final, c'est-à-dire que tu pouvais pas les étendre, fallait dire explicitement tu veux qu'elles soient ouvertes, open pour être ouvertes et étendues, et c'est vrai que moi j'ai tendance à me dire, ouais, mais aujourd'hui, je pense savoir que personne ne va jamais étendre ce truc-là. Il ne faut pas qu'ils étendent. Et en fait, 5 ans après, tu t'aperçois, ouais, mais en fait, tu n'avais pas pensé à tous les cas, et en fait, ce serait bien de pouvoir l'étendre.
Ouais.
Donc, c'est vrai je pense qu'il ne faudra pas en abuser. Mais par contre, ça peut ouvrir des perspectives intéressantes aussi, parce que ces classes scellées vont fonctionner aussi avec les records et avec le pattern matching. Donc, par exemple, quand tu veux faire du pattern matching, et aussi ce qui va arriver dans le futur pattern matching, en fait, tu vas pouvoir discriminer, dire, voilà, si ça ressemble à ça, tu sais, si c'est rectangle qui est une sorte de shape, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que tu peux toujours imaginer des nouvelles formes, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre exemple ? Enfin, tu peux discriminer et puis aller dans un if particulier parce que, où tu sais que si c'est pas tel et tel, ça va être tel autre type. Enfin, j'imagine que ça va être utile plus, tu vois, avec ces nouvelles fonctionnalités-là ou quand on pense en termes de programmation fonctionnelle, des types produits, des types sommes, etc., plus que de l'utiliser par défaut. Je m'en méfierais, effectivement. C'est mon intuition, en tout cas.
Ok, deuxième news langage, Adopt OpenJDK rejoint la fondation Eclipse. Donc ça, on est tous passés, enfin beaucoup de nous sommes passés à Adopt OpenJDK, et apparemment, la taille grossissante de son adoption, il a besoin d'avoir une nouvelle structure pour l'héberger.
Ce qui est aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que...
Qui peut nous en parler ?
Ouais, je voudrais rajouter quelques trucs là-dessus, parce que, tu sais, c'est LJC, le London Java Community, qui gérait ça. Mais en fait, ceux qui lead le LJC, c'est aussi, Ben Evans et tout ça, des gens qui ont rejoint Microsoft. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, ah oui, mais.
Martin Wurzberg, ouais.
Martin Wurzberg, etc. Et c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que du coup, ça reste assez neutre? Si derrière, en fait, c'est des gens de Microsoft qui s'en occupent. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont dit, autant décorréler vraiment notre activité chez Microsoft de ce qu'on fait avec LJC sur Adopt OpenJDK et de trouver un endroit plus neutre pour mettre ce projet-là.
Déjà, historiquement, c'était un beau challenge parce que c'est pas tous les jours qu'un
des individuels, quoi.
C'est
une société. Un individu.
Prennent en main Adopt OpenJDK qu'on renommera donc Eclipse Adoptium.
Tu dis quoi, Adoptium ou Adoptium?
Oh là là, je sais pas. Adoptium, oui, tiens, bonne question. Donc voilà, il faudra se faire à non plus OpenJDK, mais Adoptium. Enfin non, je pense que OpenJDK garde son nom, mais Adopt OpenJDK, quoi.
Ouais, ouais. Et puis niveau, on avait noté aussi niveau de la gouvernance qui est séparée en deux. Il y a le Project Management Committee pour tout ce qui est décisions techniques, etc. Et il y a aussi un Working Group pour les questions financière, légale, marketing, etc.
Mais ça, il me semble que c'est le classique Eclipse, non? Parce que oui, MicroProfil, oui. C'est pareil, hein, ils ont le PMC et le WG MP, donc le Working Group MicroProfil. Il me semble que c'est la fondation qui exige ça.
Et pour moi, enfin moi, pour le commun des mortels, j'ai l'impression que la news est surtout que ça assure la pérennité future, quoi. D'adopter OpenJDK en rejoignant Eclipse, non?
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Oui.
Cool. Alors.
Tu dis cool comme Emmanuel?
Mais il faut que je fasse pareil.
Mais oui, l'épisode, c'est lui qui dit cool. Non,
mais oui, c'est
moi, on n'a pas le droit de dire. Je l'ai pas très bien fait. Cool. Voilà. Troisième news langage, allons-y. Alors, ça, c'est pour Guillaume. On a vu passer des petites rétrospectives de l'histoire du langage Groovy.
Ouais, donc. Bon, Groovy, du coup, qui est né quand même en 2003, hein, ça fait un petit moment. Donc il y a Paul King, donc un des plus vieux contributeurs et committeurs du projet Groovy, qui a écrit un rapport donc pour le comment ça s'appelle ACM, c'est ça veut dire l'acronyme d'ACM, computing machin, enfin bref, peu importe. Donc lui, Paul connaît enfin l'histoire de Groovy depuis très très longtemps, et donc il a écrit combien de pages là-dedans, il y en a
je sais pas 53
combien. 53 pages sur toute l'histoire. Il retrace l'histoire du projet, ce qui est assez phénoménal. Donc il couvre par exemple les opérateurs qui ont été rajoutés à Groovy et qui ont aussi été source d'inspiration pour d'autres langages. Qu'il y a des opérateurs là comme Elvis, la Null Safe Navigation, donc avec le point d'interrogation point, etc. Tous ces trucs là, c'est des choses qu'on a retrouvées dans d'autres langages, dont Kotlin, dont Swift, C#, etc. Ils ont repris des choses que nous on avait inventées finalement dans Groovy. Ou par exemple la notation pour les closures. Nous, on s'était inspiré à l'époque un peu de Ruby, mais Kotlin a repris la même que Groovy, et aussi l'idée de pouvoir mettre la closure, la dernière lambda, la dernière closure, en dehors des parenthèses des paramètres, quand c'est la dernière. Ça, par exemple, il y a Swift qui a repris ça aussi. Enfin bref, donc il fait un petit tour sur toutes ces choses-là, sur les choix qu'on a fait, par exemple le fait que à la base, Groovy, c'est un langage dynamique, même si, en fait, au fil des ans, on a aussi rajouté tout ce qui est static type checking et static compilation, donc vérification de typage statique et compilation statique, autant que je l'ai traduit en français. Aussi, l'histoire, à un moment, on avait penser en faire une JSR, mais...
Ah oui, c'est vrai, oui.
Ouais, c'était James qui avait suggéré ça, mais après, il n'a pas forcément suivi dans les efforts pour le faire. Après, j'ai repris le lead de ce truc-là, on a fait tout un tas d'efforts pour finalement créer un TCK, etc., mais on n'a pas fait l'effort de continuer le mouvement dans la JSR, parce que finalement, on n'en avait pas vraiment besoin, et... on pense que personne d'autre n'aurait fait d'autres implémentations du langage, quoi. Donc ça ne servait pas à grand chose, je dirais.
Ouais, j'ai une question. Ah oui, excuse-moi. Ouais. J'ai une question sur le. Donc c'est Paul King qui a écrit ça, mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir toute l'info? Est-ce que ça a été fait collaborativement? Est-ce que il y a eu que ça a été fait sur un wiki et d'autres qui collaborent ensemble pour modifier, ou c'est lui tout seul? Il allait faire des interviews, des choses comme ça?
Ouais, non, c'est lui tout seul. Alors, j'ai reviewé plusieurs fois. Il a repris plein de sources. Par exemple, moi, j'avais écrit aussi des articles sur l'histoire de Groovy, etc. Il a repris. On faisait des. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait, mais on faisait des Groovy DevCon, donc c'est-à-dire des conférences des développeurs Groovy où on discutait de la roadmap, on essayait de designer des nouvelles fonctionnalités, etc. ensemble. Donc il y avait les rapports qu'on avait écrits lors de ces réunions. Donc il a fait vraiment une synthèse de toutes ces choses-là, de tous les blog posts. Et puis lui, donc quand est-ce qu'il a rejoint? Lui, il a dû rejoindre en 2007. Donc, il m'a surtout posé des questions sur les toutes premières années, vu que moi, j'étais là depuis le début. Mais il a fait vraiment une grosse synthèse et il a fait relire à des
gens. D'accord, donc on peut considérer que c'est l'histoire officielle. Tous les gens qui ont participé à Groovy sont d'accord avec l'histoire. Il y a une histoire et c'est celle-là.
Ouais, okay. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, après, quand moi, je l'aurais écrit un peu différemment, mais c'est ça. Ouais, vas-y, Antonio.
Mais quand on écrit un livre sur l'histoire, c'est pas un peu sceller le présent, non? C'est pas un peu mortuaire pour Groovy? C'est genre, voilà ce qui s'est passé, maintenant ça s'arrête, ou non?
Non, bah c'est comment on appelle ça? Donc ACM.org, là.
Association for Computing Machinery, je crois.
Voilà. Association for Computing Machinery. Ils écrivent en fait régulièrement tous les ans différents papiers, aussi bien sur l'histoire des langages que sur plein de choses avancées, des concepts variés, etc. Et je sais plus comment c'est arrivé, comment Paul a été contacté là-dessus pour écrire sur le sujet. Mais ça a été une demande en fait, hein, et puis c'est dit oh,
bah, d'accord, oui, d'accord.
Pourquoi pas. Oui, d'accord. Pourquoi pas. Donc sinon,
mais c'est très intéressant. Hein. Ça nous manque souvent de documenter des choix de design qu'on a fait dans le passé. Je vois dans le projet XWiki, on essaie de le faire aussi, mais on a plein où on l'a pas fait. Et quand plus tard tu retrouves des codes et que tu veux refactorer, etc., t'aimerais bien avoir cette information sur les choix faits.
Le pourquoi.
C'est d'ailleurs pourquoi moi j'aime bien quand il reste. Il y a ceux qui disent faut pas mettre des commentaires. Si ton code est bien écrit, bien nommé, etc., t'as pas besoin de commentaires dans ton code. Moi je suis tout à fait pas d'accord avec ça parce qu'il y a des fois, il y a des choses que tu vas mettre, tu vois, dans des commentaires ou pour dire dans ton implémentation, t'as fait comme ça parce que t'as un cas tordu ou je ne sais quoi qu'il faut qu'on sache, tu vois. Et typiquement, là. Moi, je le vois. Alors là, zoomons un peu. Enfin, reprenons un peu. Là, je zoomais sur le code, mais pour reprendre un petit peu de hauteur, on a par exemple un committer chinois qui nous a rejoint il y a je sais plus combien de temps maintenant, 3 ans, 4 ans, qui déborde d'énergie, qui est une force de proposition, etc. Mais c'est vrai que par exemple lui. Enfin, je le dis pas négativement hein, par rapport à ce contributeur, hein, ce committeur, mais tu vois, il n'y avait pas toute l'histoire que nous on avait sur le projet, et donc on sait pourquoi on avait pris telle décision. Et des fois, tu vois, tu vas avoir des nouveaux committeurs comme lui qui arrivent. Ah mais non, on a qu'à faire comme ça. Ah ouais, mais alors attends, on avait décidé de pas faire comme ça nous à l'époque parce que ceci. Donc on peut revisiter ce qu'on avait décidé à l'époque, hein, peut-être que des hypothèses sont plus correctes, on peut voir, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait un petit peu l'histoire du projet pour savoir, pour pas aller et revenir dans un sens et dans un autre sur le projet. Par exemple, à un moment, on avait des opérateurs qu'on avait introduits un peu à la va-vite, puis on s'est dit non mais attends, on va pas rajouter des opérateurs, et on était revenu en arrière, puis finalement on les a rajoutés parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient utiles, mais du coup ça peut être assez confusant et pas très cool quoi pour les utilisateurs si il n'y a pas une notion forte de l'histoire de la connaissance du projet et de son évolution quoi.
Ce qui peut être pas mal aussi, c'est mettre une URL sur une issue où il y a tout commentaire, où il y a tout questions réponses etc.
Ouais, c'est vrai.
Donc ça j'aime moins mettre des URL sur des issues parce que moi je considère que l'issue tracker c'est un truc temporaire qui peut disparaître et qui va pas survivre à la même durée de vie que le projet, que le source en fait. On peut migrer peut changer d'un autre, par exemple tu passes de Jira à GitHub issues n'importe, t'as pas tu l'autre est décommissionné etc.
Et c'était pas ce qui s'est passé avec Spring il y a quelques années là où ils ont fait des efforts incroyables. Ils ont tout migré leur Jira sur GitHub, je ne sais plus quel projet de Spring, et ils avaient gardé les liens, etc., etc. Enfin, un boulot monstrueux.
Ouais, donc moi je préfère, c'est notre recommandation, nous, c'est de essayer de ne pas mettre trop d'URL, mais de mettre dans le code de les raisons, en fait, au maximum, pour l'avoir proche du code. Mais bon, je comprends. Passons à la suite, peut-être, parce qu'on a pas mal de choses encore. Donc, nouvelle distribution OpenJDK de Red Hat spécifique pour GraalVM vient de sortir. Ça s'appelle Mandrel GraalVM. Donc ça montre l'implication de Red Hat sur GraalVM et l'ouverture d'Oracle sur les collaborations à ce projet. Donc ça, c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres feedbacks là-dessus? Ce serait Emmanuel qui aurait peut-être plus de.
Ouais, peut-être qu'on pourra lui en demander. Il va nous refaire un crowdcast s'il n'est pas là.
Mais c'est vrai que Graal VM, depuis le début, c'était très oracle. C'était un peu, je pense qu'au tout début, hein, je ne sais plus comment s'appelait le projet avant. Bref, au tout début, ils n'étaient peut-être pas sûrs de leur coup. Hein, donc, c'était vraiment resté à l'intérieur d'Oracle Lab. C'était sorti timidement. Il y avait à chaque nouvelle version entre la 0.20 et la 0.19, ils avaient tout cassé. Bref, je pense qu'ils s'étaient accaparés un peu le produit. Peut-être pour des raisons où il fallait faire vite et ils étaient peut-être pas sûrs de leur coup. Là, ça montre effectivement qu'Oracle est peut-être un peu plus sûr et qu'ils arrivent à donc ouvrir à d'autres personnes.
Donc, ce qui est plutôt cool, ouais. Ça pérennise le projet, ça montre que c'est ouvert, ça montre qu'ils acceptent la collaboration. C'est plutôt positif.
Ouais.
Et alors, pour finir dans la partie langage, on a deux sujets que moi j'aime bien, qui sont sur la qualité de code, donc sur le, et notamment une revue du livre de Uncle Bob Martin, de Clean Code, par quelqu'un qui a blogué dessus et qui a écrit une revue critique. Pourquoi ? Parce qu'on entend souvent des développeurs un peu seniors ou dans les entreprises dire aux jeunes qui rentrent, il faut que tu lises ce livre, Clean Code, et ça t'apprendra à bien coder. Donc l'auteur de cet article mentionne que lui...
Qui est super long en plus. Hein.
Qui est long. Lui a relu. En fait, ils ont fait un groupe de lecture dans sa boîte. Ils ont relu à plusieurs tout le livre. Et en le lisant, ils ont aperçu qu'ils avaient beaucoup de commentaires où ils n'étaient pas d'accord, en fait, hein, des points de vue différents de l'auteur. Et alors, sur beaucoup de points, ils sont d'accord, hein, quand même la majorité des points, ils sont d'accord. Moi, c'est ce que je retiens de la lecture, quand même, de cette critique, mais qu'il y a quand même pas mal d'endroits où ils sont pas d'accord. Alors, il faut savoir que ce livre est un peu ancien maintenant, hein, ça date.
C'est 2008, clair que,
hein, 2008. C'est clair que les pratiques évoluent aussi. Mais voilà, il a souligné dans l'article, il souligne les incohérences qu'il y a, c'est marqué, c'est dit, il faut faire comme ça, il faut pas faire ça, et puis on s'aperçoit que dans les exemples de code qui sont fournis, en fait, c'est pas toujours suivi, par exemple.
Et bon, oui, il donne beaucoup l'exemple du side effect où le livre Clean Code, en fait, il dit il faut qu'une fonction n'ait pas de side effect. Alors, je sais pas bien comment.
Des effets de bord.
Merci. Sur votre classe. Et donc ça, c'est le livre qui le dit, enfin Bob Martin. Et c'est vrai que quelques pages après, il montre plein de fonctions qui vont mettre à jour des variables globales de la classe. Et le gars donne effectivement cet exemple en disant, regardez, sur la page 15, il dit qu'il faut pas le faire. Et puis il fait que ça sur la page 18 et 19. Alors moi, c'est un livre que j'ai acheté en 2008 lorsqu'il est sorti. Comme c'est un livre assez épais, je l'ai en face de moi en plus, 420 pages, c'est pas un livre que j'ai lu de la page 1 à la page 420, donc c'est plus par thème, et je me souviens que parfois je restais scotché sur 4 ou 5 pages, et j'ai dû passer, je suis passé je pense à côté de plein de trucs, parce que moi je les ai pas lus, mais c'est vrai que là, lorsqu'on lit le blog du gars, on se dit, mais oui, flûte. Je suis retourné voir le chapitre 3 sur les fonctions, et c'est vrai. Donc le livre vous dit il faut faire ça, et puis quelques pages après il dit il faut pas le faire. Bon, voilà.
Mais donc ça amène, ça pose la question, plusieurs questions. C'est un, est-ce que ce livre on peut toujours le recommander de nos jours à des jeunes développeurs qui arrivent pour apprendre les bases de ce qu'il faut faire sur du code? L'auteur dit que de son point de vue, non. Si on regarde les commentaires derrière, la plupart des gens disent plutôt oui, c'est quand même bien globalement, mais à prendre avec des pincettes. Donc faire attention, pas prendre tout pour argent comptant. Et la question subsidiaire qui reste, c'est quel autre livre serait à conseiller de nos jours pour ceux qui démarrent, pour bien apprendre les bonnes pratiques de développement. Et a priori, il n'y a pas énormément de livres. Il y avait Code Complete aussi, un gros pavé également,
oui.
Mais qui date un peu aussi, hein, pareil. Je ne sais pas s'il y a des mises à jour, d'ailleurs, peut-être. Et je ne sais pas. Moi, en réfléchissant, je n'ai pas trouvé particulièrement de référence absolue sur le sujet.
Sinon, j'ai vu dans les commentaires, il y avait plusieurs fois quand même le livre Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers.
Oui.
Qui apparemment revient souvent, et c'est vrai que vu que Bob Martin se consacre, tu vois, aussi dans ce bouquin-là sur le refactoring, etc., typiquement Working Effectively with the Legacy Code, celui-là, il se focalise beaucoup sur le refactoring, donc c'est peut-être intéressant de continuer ou de commencer par ce livre-là, j'en sais rien, pour justement voir comment tu améliores ton code, comment tu le rends plus testable, comment le rendre plus lisible, plus facile à maintenir, etc. C'est peut-être plus celui-là, du coup, que j'aurais tendance à... Enfin, en lisant les commentaires, hein, parce que ça a l'air de faire sens de lire ça, quoi.
Voilà. Et deuxième sujet relatif à la qualité de code, il y a un autre article intéressant, un peu provocateur volontairement dans le titre, qui disait que voilà, les tests unitaires c'est surfait. Le titre de l'article, c'est Unit Testing is Overrated. Donc l'auteur.
Pareil, avec beaucoup de commentaires. Et dans les commentaires, les gens se sont lâchés.
Donc l'auteur, c'est pareil, il essaye de prendre un point de vue un peu opposé à ce qu'on entend partout. Partout, tout le monde te dit est-ce que tu as écrit tes tests unitaires ? Et en fait, souvent même dans la tête de pas mal de personnes, tester revient à écrire des tests unitaires. Tester, c'est faire des tests unitaires, on n'avait pas douté. Et donc voilà, il essaie de prendre lui son point de vue, c'est que les tests unitaires ne sont pas si terribles que ça, et qu'il faut mieux écrire plutôt des tests au plus haut niveau d'abstraction, des tests plus proches des cas d'utilisation des utilisateurs, donc des tests plutôt des tests à l'intégration ou des tests fonctionnels, parce que c'est plus intéressant, ça permet de découvrir plus de problèmes. Et globalement, ça apporte une meilleure qualité de code. Ça permet de découvrir plus de problèmes, quoi. C'est intéressant. Moi, de mon point de vue, c'est non. Enfin, je suis pas d'accord. je suis d'accord, mais très partiellement, pour avoir fait les deux. Et dans XWiki, ça fait quand même 15 ans qu'on écrit ça. On doit avoir 20 000 tests, à peu près en tout. Clairement, on mixe les deux et on a besoin des deux, hein. Tu as besoin des tests unitaires quand même pour module par module pour pouvoir vérifier que le code de ce module fonctionne bien et rapidement. Et quand tu codes le module, quand tu écris des API surtout. Alors, je pense qu'il y a une différence aussi si tu écris une application ou plutôt tu écris des librairies. Parce que si tu écris une application, c'est clair que tes tests fonctionnels, c'est intéressant. Si tu écris une librairie, c'est très intéressant d'avoir des tests unitaires. Parce que ça te permet d'être des utilisateurs de ton code. Donc, ça permet de vérifier que ton API est facile à utiliser. Dans une application, tu vois moins ce problème. Et du coup, la partie design est importante sur les tests unitaires dans ce cas de librairie et d'API. Bon, après, c'est rapide, donc tu peux en faire plein. Dans les tests fonctionnels, c'est dur de tester des effets de bord. Tous les cas d'erreur, des exceptions, etc. Tu débranches la base de données, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu moins facile à tester fonctionnellement. Donc les tests unitaires, c'est bien. Maintenant, quoi d'autre? Plus tu montes dans les couches dans tes tests, plus ils utilisent de l'environnement, les vrais environnements, et moins qu'il y a de mock et de stub, ton test est fragile. C'est-à-dire plus t'as de points de fêlure possible, et plus tu vas fêler dans ton CI, tu vas avoir des flickers, des tests qui marchent et qui marchent plus après. Et ça, c'est la plaie. Tu passes des journées, voire des années dans un cas à essayer de comprendre pourquoi et à te ralentir ton process de développement. Donc nous, dans XWiki, on est arrivé au niveau où moi, je pense qu'on a écrit trop de tests fonctionnels. Donc on a beaucoup de tests unitaires, on a focusé beaucoup sur les tests fonctionnels, et je pense qu'il y en a, je dirais n'importe quoi, 50% que moi je voudrais rebouger de tests fonctionnels et tests unitaires, parce qu'ils sont testables, mais de manière unitaire, et ils testent la même chose en fait, enfin, ou ils testent plutôt pas exactement la même chose, mais suffisamment pour être intéressant et découvrir les problèmes plus vite. Parce que le souci, c'est qu'un test fonctionnel, notamment, lui, il parle dans le bouquin des tests où tu mets des containers pour ton environnement. Hein. Quand tu fais ça, c'est très très long. Toi, si je prends l'exemple d'XWiki, c'est peut-être 5 heures hein, l'exécution des tests.
Ah ouais,
donc quand tu veux avoir un feedback, c'est long. Et puis en plus, 5 heures sur une config. Quand tu testes sur 25 configs différents, c'est encore plus long. Ouais. Donc c'est intéressant, mais ça a beaucoup de points négatifs aussi. Hein. C'est beaucoup plus dur à maintenir aussi. Donc le coût explose. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a le juste milieu. Le juste milieu, c'est d'avoir une majorité de tests unitaires quand même, mais tu as absolument besoin de tests fonctionnels, sinon t'as absolument aucune preuve que ça fonctionne. C'est juste qu'il faut réussir à trouver un juste milieu pour que ça s'exécute assez rapidement quand même et sans trop de flickering.
Je me souviens d'une conf où le mec disait en fait on n'arrête pas de se battre sur test d'intégration, test unitaire, mock, pas mock, etc. Et il disait je me souviens plus si c'était pas le gars. Bref, j'ai un trou de mémoire. Et il dit en fait la terminologie n'est pas bonne parce que test unitaire. Si on prend la définition, c'est tester une classe isolée de manière unitaire. Et en fait, il disait, mais si vous l'appelez plus comme ça et vous l'appelez test de méthode, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait ? Vous êtes en train de tester une méthode et vous vous demandez plus est-ce que cette méthode est isolée ou pas ? Est-ce que je dois couper tous les liens ou pas ? Vous testez votre méthode. La méthode M de la classe A, il se trouve qu'elle utilise la classe B, C, D, mais vous êtes en train de tester une méthode avec les dépendances à B, C, D. Moi, je sais que je viens du monde Java E, mais alors là, pour le coup, J2E, où tester c'était impossible.
Sauf avec Cactus à l'époque.
Voilà, donc, il fallait trouver vraiment des gros artefacts, il fallait moquer et surmoquer. Après, on a eu Java E5 Spring, où on arrivait à moquer, virer le conteneur. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait y embarquer une base de données et en mémoire. Donc, on arrêtait de moquer l'accès à la base. C'était pas mal non plus. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec les Micronautes, les Quarkus, tous les trucs qui vont très, très vite, que le conteneur coûte pas cher. Et que un test d'intégration coûte pas cher non plus. Il y a 15 ans, le test d'intégration avec le container, c'était incroyablement complexe et coûteux.
Ça coûte 3 minutes aujourd'hui pour XWiki de démarrer les containers et l'environnement avant que tu commences ton test à peu près. Entre 2 et 3 minutes, on va dire.
Mais je te parle de l'époque où c'était du WebLogic et des trucs comme ça, quoi.
C'était beaucoup plus long que ça, mais même 2-3 minutes, ça, c'est pour un test. Quand on a 10 000, fais ton calcul, fais voir combien de temps ça met juste de démarrer le truc et l'arrêter. C'est monstrueux. Après, on n'utilise pas GraalVM, peut-être qu'avec justement les GraalVM, enfin, on peut pas de toute façon pour le moment, mais peut-être qu'avec des GraalVM et comme ça, on va aller dans le sens où ça va être encore plus rapide. Mais c'est encore chaud. En revanche, c'est bien, c'est possible. Disons que les containers ont rendu ça vraiment possible maintenant, alors qu'avant, c'était quand même compliqué. Ok. Bon, il y a plein d'avis différents sur le sujet, hein. C'est intéressant. Mais je pense que c'est un sujet qui n'a pas de réponse absolue. Hein.
Oui.
Chaque projet doit trouver sa limite. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour lui ? Il y en a certains, le temps n'est pas important. Tu as des fermes monstrueuses avec des énormes budgets. Forme monstrueuse d'agents et qui peut te permettre de paralyser tout ça sur plein. Mais voilà, et trouver juste le milieu.
Tester une librairie, tester une application, c'est pas tout à fait les mêmes besoins non plus.
Non, effectivement. En parlant de librairie, bonne transition, nous étions dans les langages, nous allons passer aux librairies. Alors, côté runtime, alors Micronautes 2.0 est sorti.
Ouais, alors Micronautes. Donc, on avait couvert un petit peu quand même les différentes milestones, release candidates qui étaient sorties. Donc là, ça reprend un petit peu tout ce qu'on avait quand même dit aussi auparavant. Donc, il y avait l'arrivée de Micronautes Launch, donc qui est un peu comme les Spring Boot Starter là. Qui permet de générer en fait une application Micronautes. Donc, c'est un site web, enfin, machinerie en fait peut aussi être utilisée en ligne de commande, mais il y a un site web qui est sympa où on sélectionne je veux utiliser tel langage, telle librairie de test, telle tel environnement, etc. Et en plus, on peut rajouter tout un tas de fonctionnalités. Donc, par exemple, je vais le mentionner après, si le support de serverless avec les fonctions Google Cloud Functions, etc. Et ça génère un projet. Tu as même un visualisateur pour voir les diffs, enfin, ou ce à quoi le projet qui va être généré ressemble. Et c'est super pour démarrer, pour bootstrapper ton projet. C'est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le support de JDK 14, de Groovy 3.0. Dans la dernière version, donc dans cette version 2.0, ils ont réussi à améliorer. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la dernière release candidate ou les milestones ou les versions précédentes, mais ils ont encore amélioré les performances de 20%, en particulier les performances au démarrage. Donc, côté ouais, serverless, là, ils ont rajouté, qui était en alpha, on va dire, dans les versions release candidate, il y a le support de Google Cloud Functions, c'est le sujet sur lequel moi j'ai bossé côté Google, en tout cas, Azure Functions et Amazon Lambda, il y a un nouveau plugin Maven, pourtant on sait que Graham Rocher adore Maven, on peut aussi faire tourner les applis Micronautes dans les containers de Servlet, encore un meilleur support de GraalVM, en automatisant aussi au maximum les histoires de configuration de ressources statiques, de configuration de drivers JDBC, Hibernate, Flyway, etc. Parce que GraalVM, il y a beaucoup de... Enfin, c'est assez pénible quand même encore aujourd'hui, donc à définir tout ce que ou utilise ou n'utilise pas la réflexion, etc. Donc, il faut écrire des métadonnées, des fichiers spéciaux qui vont bien. Donc là, ça automatise un maximum de choses. Donc, c'est pour le développeur final, il n'a pas trop à se soucier de ces choses-là. Il passe à Gradle 6.5 qui permet de faire de la compilation incrémentale. Ça, c'est plutôt cool parce que du coup, il ne recompile pas tout le projet, il va recompiler que ce qui a été vraiment modifié, et aussi le support du coup des annotation processors. Donc par exemple quand on utilise ceux de Java ou ceux de Kotlin, donc c'est tout intégré, et puis le support de HTTP2.
Eh ben dis donc,
ouais,
belle release.
Gros boulot, ouais, belle release, ouais.
Et puis il y a plein d'autres news.
Et ouais, il y a plein
cachotier, petit cachotier de Guillaume Laforge.
Donc il y a alors l'équipe de Micronautes, enfin les core committers, les quelques heureux qui sont payés à plein temps, ils sont embauchés, ils bossent pour une sorte de boîte de consulting américaine qui s'appelle Object Computing. Et en fait là, comme ils voulaient rendre le projet encore plus ouvert à la collaboration et qu'on se dise pas oui c'est le projet d'une boîte, ils ont créé une fondation pour héberger Micronautes. Donc la société Object Computing garde quand même une place majoritaire dans le projet, dans la gouvernance du projet. Mais en tout cas, ils ont aussi rajouté dans cette, comme dans la plupart des fondations, un Technical Advisory Board, donc un comité de direction technique. Je ne sais pas si c'est ça la bonne traduction.
Ouais,
en français.
Pas mal, pas mal.
Dont des membres variés, dont ThoughtWorks, mais aussi
Guillaume Laforge.
Ouais. Donc du coup, voilà. Alors, on n'a pas encore commencé les meetings, les réunions, mais voilà, on va discuter de la roadmap, de ce qu'on pourrait faire, etc. Donc, je suis plutôt content de qu'il m'ait proposé de faire ça. Et il y a aussi une autre grosse news quand même. C'est que Graham Rocher, donc, qui travaillait, donc, l'inventeur de Grails, de Micronautes et tout ça, quitte justement Object Computing et rejoint
Oracle.
Oh là là,
Oracle au désespoir.
Et Oracle donc va contribuer à Micronautes. Donc c'est aussi pour ça, en partie en tout cas, qu'ils ont créé la fondation.
Ils ont créé une fondation pour pas qu'on Oracle. D'accord.
Donc, comme ça, il peut y avoir différentes sociétés qui contribuent au projet sans avoir peur qu'à un moment, je ne sais pas, on ferme les écoutilles ou je ne sais quoi.
Mais alors, une question, pourquoi pas aller chez Eclipse, tu vois, pourquoi créer une fondation, tu vois, il y a quand même Apache, Eclipse.
Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop. Là, j'ai pas vraiment discuté des raisons pour lesquelles ils en ont fait une, on va dire, à part entière. Plutôt qu'en rejoindre une existante, je sais pas.
Parce que créer une fondation, ça ne va pas être facile.
Ils ont dû payer les avocats.
Mais oui,
ça doit coûter cher.
Bah oui.
Et l'autre aspect, l'autre facette de cette nouvelle du fait que Graham rejoigne Oracle aussi, c'est que Graham, donc, il va continuer de contribuer à Micronautes au sein de Oracle. Enfin, il rejoint en fait Oracle Labs et il va contribuer et travailler avec les équipes de GraalVM.
Pas mal.
Et du coup, donc, non seulement il va travailler aux améliorations, à l'évolution de GraalVM pour, évidemment, Micronautes, mais également pour tout ce qui est bah, les spécifications Java EE, alors peut-être MicroProfile, etc. Et j'espère que ça peut bénéficier même Quarkus qui utilise ces mêmes spécifications, tu vois.
Oui, et qui pour le coup sont, sont chez Eclipse.
Ouais.
MicroProfile, c'est chez Eclipse. Oui, donc.
Donc beaucoup, je suis curieux de voir comment ça va se passer.
Beaucoup de mouvements.
Mais du coup, Graham, le connaissant, tu vois, il essaie de pousser au maximum à rendre les outils facilement utilisables, intégrables, etc., par les développeurs et améliorer la, l'expérience développeur de manière générale, ce qu'il a toujours fait, en tout cas, sur les projets sur, la, sur lesquels il a contribué. Et du coup, c'est, je trouve ça assez prometteur, tu vois, pour GraalVM de manière générale et donc pour tous ceux qui veulent utiliser GraalVM.
Bon, vous trouvez pas que l'histoire elle se répète un peu là? Chacun chacun développe des trucs, on se dit tiens, on est tous des potes, ouais. On va créer des spécifications, on va tous se mettre d'accord autour de trucs totalement neutres et au bout de 20 ans, paf.
Ah, qui sait, écoute.
Bon, écoute. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Ouais.
Yes, et tu parlais de Quarkus, justement, la version 1.6 est sortie. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ou si c'est Emmanuel qui pourrait nous en parler plus.
Ou Antonio, toi, tu l'utilises pas mal aussi.
Moi, je l'utilise pas mal. C'est vrai que Quarkus est parti sur, une, sur un rythme de release mensuel presque. Presque chaque mois, ils sortent une 1.x. Donc, ça va assez vite. Il y avait même une question que j'avais posée à Emmanuel là, sur leur YouTube channel Quarkus. Est-ce qu'un jour il y aura une 2.x? Et en fait, c'est pas si sûr que ça. Donc ils avancent vraiment avec 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 12, 13, 14, 15. Donc à voir, hein, parce que il dit nous en fait comme on est vachement collé sur du Kubernetes, bah, tant qu'il n'y a pas un shift énorme dans cet écosystème-là, pour nous, ça ne change pas tant que ça. Donc, en fait, il n'y a pas une 1.6, c'est des trucs en plus de la 1.5, mais on réinvente pas la roue. Donc là, il y a, je sais qu'ils sont pas mal en train de bosser sur Reactive Vibernet, et donc là, ils ont un client réactif pour DB2. Alors là, je savais même pas que c'était possible. et puis différentes choses. Ils intègrent aussi de plus en plus Spring. Donc là, la 1.6, ils intègrent, enfin ils supportent l'annotation as schedule. Et puis l'upgrade aussi de GraalVM puisqu'ils étaient à la 20.0x, je ne me souviens plus trop. Et là, ils intègrent. Enfin, il supporte GraalVM 20.1. Voilà.
Il y a aussi, vu que je l'ai mentionné tout à l'heure, et vu que c'est le truc sur lequel je bosse un petit peu chez Google, là, le support de Google Cloud Functions. Donc, du coup, ce que j'aime bien, c'est que les nouveaux frameworks récents à la mode, genre Micronautes et Quarkus, fonctionnent sur le produit sur lequel moi je bosse au boulot. Donc, ça, c'est
et comme c'est tes potes.
Voilà, et ben j'aime bien.
Et ben j'aime bien.
Voilà. Donc Quarkus progresse, supporte de plus en plus d'outils et librairies utilisées par les développeurs. Voilà. Est-ce qu'on sait c'est quoi la limite? Est-ce qu'il y a des choses qui ne seront jamais supportées? C'est une question que je me pose moi, parce que là, je me prends l'exemple de XWiki par exemple. Est-ce qu'un jour ça pourra fonctionner sur un Quarkus 1.128?
Alors. Moi, donc Emmanuel est pas là, hein, mais je serais tenté de dire oui parce que Quarkus, bien sûr, tout le monde parle de GraalVM, ils font super gaffe à ce qu'il y ait le support de GraalVM qui là va te contraindre énormément, mais leur target c'est quand même Hotspot. Ouais. ils veulent que tout tourne sur Hotspot comme avant, quoi. Alors après, c'est vrai qu'ils font énormément de bidouilles. et quelques succeries pour tourner sur GraalVM. Si XWiki tourne pas sur GraalVM, c'est pas eux qui vont te le faire par magie. Par contre, c'est censé tourner sur Hotspot.
Voilà.
Okay. Et sinon, dans l'épisode précédent, on avait parlé de la feature, donc du coup c'était dans la version 1.5, je crois, de FastJar, et on s'était demandé un peu ce que c'était par rapport à UberJar, etc. Et justement, on a Emmanuel qui nous a fait un crowdcast pour expliquer ce que c'est que FastJar, pour encore améliorer la performance, le startup et tout ça.
Il est à fort. Toi, Emmanuel.
Donc, même s'il n'est pas là, il est quand même là.
Il est quand même là avec nous.
On t'écoute, Emmanuel.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bernard et aujourd'hui, je vais vous faire un crowdcast sur le format FastJar de Quarkus. C'est une question de Audrey, Guillaume et Arnaud, de l'épisode précédent. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un crowdcast comme ils l'ont demandé. alors, qu'est-ce que c'est le FastJar? En fait, ça vient de nos expériences, enfin, de nos tests de performance et de démarrage, de temps de démarrage et de consommation mémoire. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on démarrait Quarkus, quand il construisait l'application en mode UberJar, c'est-à-dire un seul jar qui contient toutes les classes de votre application et les dépendances, à ce moment-là, on gagnait à peu près 200 millisecondes en temps de démarrage. Je parle de la JVM, GraalVM c'est complètement différent, mais je parle ici en mode JVM, et 200 voire plus en millisecondes. Et c'était assez surprenant pour nous, sachant que le mode par défaut dans Quarkus, c'est justement pas le UberJar, c'est justement de garder les jars tels qu'ils existent et d'avoir les jars de vos dépendances, les jars de votre application et le jar de ce qui est construit et généré par Quarkus en lui-même. Et la raison pour laquelle on garde ces jars de manière séparée, c'est que dans un déploiement de type container, Kubernetes, etc., avoir un gros UberJar, c'est un peu nul parce qu'on se donne pas la possibilité de réutiliser les layers de chaque container, en fait, de réutiliser un stockage qui serait partagé entre différents containers. Si on a les jars des dépendances qui ne bougent jamais et qu'on a un layer qui ne contient que ça, et bien à ce moment-là, on va pouvoir construire les améliorations incrémentales de l'application en s'appuyant sur ce layer-là sans avoir à tout reconstruire. Donc si on utilise un UberJar, le jar c'est un zip, hein, en gros, donc le layer du container, il est complètement réécrit à chaque fois. Par contre, si on a les layers, la layer d'approche et les jars qui sont séparés, à ce moment-là, on peut optimiser cet usage-là. Donc, ça reste le mode par défaut de garder les jars éclatés. Mais c'est plus lent au démarrage. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que voilà ce qui se passe. Quand on demande une classe, en fait, le class loader, il va aller regarder dans le premier jar, ouvrir le zip, regarder dans son index si la classe que l'on cherche existe. Si elle n'existe pas, il va ouvrir le second jar, regarder dans l'index et regarder si la classe existe, et ainsi de suite. Donc vous imaginez, quand vous avez 50 jars ou 60 jars, il y a 50 ou 60 fois la même opération, alors que dans le UberJar, ça n'est fait qu'une seule fois. Donc l'idée du FastJar, c'est de dire, mais Quarkus, on connaît la liste des classes au moment de la compilation, au moment du build. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un index qui dit, voilà, telle classe, elle est dans tel jar spécifiquement. Ce qui fait que quand on va avoir besoin d'une classe, le class loader va avoir besoin d'une classe, il va d'abord interroger cet index global et dire, ah, ok, cette classe-là, elle est dans le jar Hibernate. Et du coup, va aller directement dans le jar Hibernate et faire son lookup qui va bien. Là, c'est au format zip. Et du coup, ça, c'est l'opération classique de la JVM. Du coup, c'est un tout petit peu plus lent que le UberJar parce qu'il y a quand même cet accès à cet index global. Mais on gagne énormément et surtout, on casse le côté linéaire de la lenteur. C'est-à-dire, plus il y a de jar, plus c'est lent à démarrer et à faire des lookups de classe. Donc voilà, c'est ça le mode FastJar, et ça n'est pas documenté parce qu'on a des idées pour l'améliorer encore un petit peu, la personne qui a construit cette idée-là, et du coup voulait attendre un premier retour, ensuite retravailler ça avant effectivement de documenter ça clairement et un peu plus tard de mettre ça comme version par défaut du modèle. Donc c'est pas un jar qui est différent, ça reste des jars tout à fait normaux, c'est juste qu'on crée un index global qui est dehors et qui nous permet de scanner les différents jars, enfin de savoir exactement dans quel jar est telle classe, et fait gagner pas mal de temps au moment du démarrage startup time, notamment en mode JVM. Voilà, voilà, eh ben, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine fois.
Voilà. Ah, super intéressant.
Non, mais c'est marrant que... Donc, c'est vrai que dans Quarkus, ils font pas mal de siouxeries avec les class loaders, et là, c'est encore finalement une siouxerie aussi avec les class loaders, c'est-à-dire le fait de créer un index des classes pour pas ouvrir 10 000 jars, mais juste ouvrir le bon jar, parce que tu sais que la classe qui veut loader est dans tel jar. Bah voilà, c'est des optimisations. Mais c'est, ouais, c'est malin.
Et a priori, ça pourrait être le mode par défaut dans la 1.7, 1.8, 1.9.
Ouais.
Donc là, c'est expérimental. Enfin, il faut mettre un flag, mais peut-être que ça sera le mode par défaut dans les prochaines versions. Voilà, à suivre.
Alors, donc là, nous étions dans le runtime, librairie runtime, et nous allons passer dans l'infrastructure, et notamment l'infrastructure cloud pour commencer. Alors, il y a pas mal de news, diverses et variées. Il y a la première, c'est qu'AWS se positionne comme un concurrent de Nexus, Artifactory, des repositories manager pour Maven.
Avec un truc qui s'appelle AWS Code Artifact, qui est payant apparemment. Enfin, j'ai pas tout lu, mais apparemment c'est un produit payant.
Voilà, après, donc... j'ai l'impression que tous les cloud providers font la même chose. Du coup, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que ça va détrôner le Maven central pour l'open source, etc. Google, il y a Cloud Build Artifacts aussi. Qui fait aussi ça pour les artefacts. Donc bon, j'ai l'impression que tous les cloud providers le font, quoi.
Oui, oui.
Donc après, à voir ce que ça donne, s'il y en a qui... Parce que moi, je sais... Donc j'avais discuté avec... alors, c'est pas celui d'AWS, bien sûr, mais avec le product manager de celui qui est chez Google, et où il m'expliquait qu'en fait, souvent, les gros clients, il y a des grosses boîtes qui disent non, moi je veux que tous les artefacts soient dans la même infra, le même cloud, etc., dans le même périmètre, et je veux pas avoir que ce soit dans un autre cloud, genre ils veulent peut-être pas forcément, enfin Artifactory tu peux le faire tourner chez AWS, GCP et ailleurs, hein, mais ils veulent que ce soit au plus près du projet finalement, tu vois, du cloud. Donc, c'est peut-être pour ça que tous les acteurs se positionnent là-dessus. Hein. Et oui, dans les autres news, là, en fait, les quatre suivantes, là, c'est moi qui les ai mises. Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais vu que ça associe Google, Istio, etc., et c'est un peu polémique aussi, je dirais, parce que là, Google, en fait, vient juste de... Donc là, c'est tout frais d'hier. Google vient d'annoncer une sorte de nouvelle entité open source.
Une fondation ?
C'est une sorte de fondation, on va dire, mais dans un cadre bien particulier. Donc, ça s'appelle Open Usage Commons, pour gérer, en fait, l'utilisation des marques et des logos open source. Parce qu'en fait, quand on fait des fondations, tout le monde participe et tout, c'est bien. Mais par contre, la trademark, la marque du projet, ça reste généralement celui qui a créé le projet qui, un peu qui a la main mise dessus. Et tu peux pas utiliser n'importe comment, cette marque, ce logo, etc. Et du coup, c'est vrai que ça laisse quand même un certain flou autour de ça. Donc, tu peux contribuer, mais du coup, tu peux pas sortir un nouveau produit qui utiliserait le mot, par exemple, Istio, si Google te dit non, t'as pas le droit. Ou un autre acteur avec une autre marque.
Sauf si tu rejoins une fondation comme la fondation Apache, etc.
Qui, elle, pour le coup... Parce que, la licence Apache... ne dit rien, par exemple, sur les trademarks. Mais la fondation Apache.
Ouais, mais tu passes dans un incubateur.
Voilà, et tu transmets Également ça, la marque et...
Non, mais il faut attention surtout, c'est qu'il n'y ait pas de... Par exemple, ton projet, si toi, tu l'appelais dans une société, le projet s'appelait X, il va être renommé, parce que pour justement, pour éviter des problèmes de trademark dessus.
Exactement,
Ah bah, comme Java E et Jakarta E, maintenant, avec tous les packages, c'est un bazar, ça. Oui, d'accord.
Et du coup, dans Open Usage Commons, ils vont accueillir les marques Angular, fameux Angular Framework, Gerrit, là, l'outil de collaboration, de code review, etc. Et aussi Istio, donc le projet de Service Mesh. Et en fait, c'est ce... Donc, j'ai aussi mis le lien, justement, sur le fait que Istio rejoint Open Usage Commons. Mais en fait, Google donne effectivement la marque, le logo dans ce contexte-là, Open Usage Commons. Mais par contre, il y a IBM qui s'est fendu d'un article expliquant que... Donc, IBM, c'est quand même un de ceux qui ont cofondé et contribué beaucoup à Istio. Et IBM qui n'est pas très content parce que Google ne donne, entre guillemets, que la marque, le logo, et non pas ne dit rien finalement et se garde la gouvernance du projet Istio. Et IBM aurait voulu une gouvernance vraiment ouverte, comme il peut y avoir éventuellement dans d'autres fondations. Donc Google fait un pas de plus, tu vois, sur les aspects open source, sur l'utilisation de la marque maintenant, etc. Mais par contre, garde encore la gouvernance d'un projet assez clé aujourd'hui du service mesh.
Concernant les marques, etc., en Europe, il y a aussi, je crois que c'est en Europe, il y a aussi la Software Freedom Conservancy, je ne sais pas si vous connaissez,
qui c'est vrai. Ouais.
Pareil, où tu peux avoir des petits projets open source, ou même gros, qui veulent pouvoir justement gérer ça proprement, peuvent souscrire à cette fondation, et elles gèrent la marque pour vous, par exemple.
Bah, tu vois, à l'époque où Groovy avait rejoint Apache, en fait, on avait trois candidats, entre guillemets. Il y avait Apache, Eclipse et celle-ci aussi, la Software Conservancy Foundation. Donc, c'est un choix possible aussi. Même si c'est moins connu, mais c'est vrai que c'est intéressant comme approche.
Par contre, moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est que l'historique, donc Google arrive déjà avec un truc qui s'appelle Istio. À l'époque, ça s'appelait quand même. Enfin, c'est Google qui avait créé ce terme-là, alors que IBM venait avec un autre truc qui s'appelait Amalgamate. Et donc, moi, ce que j'ai pas compris, c'est maintenant, est-ce que le terme Amalgamate a disparu et IBM ne contribue que sur Istio et Amalgamate, c'est terminé? Ou est-ce que c'est un fork? Enfin, tu vois, j'ai pas bien compris. Je sais pas si tu sais, toi, mais...
En fait, moi, je connais pas trop ce qu'avait fait IBM avec Amalgamate. Donc, je sais pas, du coup, quelle est la proportion de ce qu'est Istio aujourd'hui, est-ce que c'est Amalgamate, etc. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en tout cas, comme ils ont donné et contribué beaucoup, c'est vrai que c'est naturel de vouloir avoir une gouvernance plus ouverte. Et Google a été critiqué là-dessus parce que on l'a pas mis, par exemple, dans la CNCF, la Cloud Native Foundation, tu vois. Alors pourquoi Donc, c'est vrai que des fois, rentrer dans une fondation avec une gouvernance, ça peut, c'est l'argument qu'on entend souvent. Enfin, là, je l'ai pas forcément entendu Google le dire publiquement, donc c'est plutôt moi, en mon nom propre, qui le dit. Encore une fois, là, je parle pas au nom de Google. C'est vrai que des fois, quand tu rentres dans des gros process avec des comités variés, etc., pour la gouvernance, tu ralentis aussi l'innovation dans le projet en question. Donc, si tu veux garder quand même les rênes un peu libres pour essayer d'innover rapidement, les fondations avec Open Governance, etc., c'est pas toujours le plus efficace, quoi. Donc,
rien ne vaut une gentille dictature.
Oui, voilà. Mais après, dans le sens de l'histoire, j'imagine qu'à un moment, ça va finir à la CNCF ou équivalent, quoi, parce que ça paraîtrait naturel. En tout cas, les gens s'y attendent. Après, voilà, moi, je m'occupe pas personnellement, je touche pas à ces produits-là, ces projets-là. Donc, ce que je dis, c'est juste moi, mon avis externe. et ça n'a rien à voir. Enfin, comme je ne le suis pas, je ne sais même pas ce qu'il en est en interne.
Oh, le disclaimer, Guillaume.
C'est un gros disclaimer.
Mais c'est un gros, gros disclaimer, là.
Ouais, mais c'est moi qui ai mis ces news-là, c'est moi qui les explique. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas être moi, parce que là, je ne suis pas un représentant de Google quand je mets ces news-là. Mais je pense que c'est intéressant à savoir pour la communauté, pour ceux qui utilisent Service Mesh, et en particulier Istio, quoi.
Yes.
Voilà.
Continuons. Dans l'infra web, on a une news. C'est la sortie de Bootstrap 5. Alors, pas en version finale, mais en version alpha pour le moment. Voilà, moi, j'ai pas encore regardé. J'ai vu rapidement. Partout, c'est marqué que un changement important. Moi, je trouve pas ça si important que ça. Mais bon, c'est qu'il ne dépend plus de jQuery. Bon, je trouve ça très interne, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il y a d'autres choses, il y a plus le support d'Internet Explorer, donc ça, c'est intéressant, toujours. Ça permet de faire des choses plus propres, et notamment, ça permet de supporter, ça s'appelle comment, les propriétés CSS, moi, je sais pas.
Les CSS Custom Properties.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, je sais pas, vous avez joué avec?
Non, moi, j'ai pas encore joué avec la 5 Alpha, mais, pour revenir à jQuery, je me souviens d'époque où l'équipe web galérait un petit peu parce que différentes librairies y embarquaient différentes versions de jQuery et c'était toujours un peu le bazar. Moi, je comprenais pas trop pourquoi, mais enfin voilà. Je me souviens avoir entendu beaucoup de gens pester sur les différentes versions de jQuery qui se retrouvaient dans la même appli parce que pas de namespace et des choses comme ça. Bref, bon, c'était peut-être une autre époque, hein. Donc, s'ils l'ont viré, c'est peut-être pas plus mal.
Après, les API du DOM ont vraiment énormément évolué et la majeure partie des choses qu'on faisait avec jQuery, on peut le faire avec du vanilla JavaScript, quoi. Donc, on n'a peut-être plus vraiment besoin.
Je ne suis pas sûr. Hein, on utilise jQuery beaucoup sur XWiki. Je ne suis pas pro dessus, mais je pense que nos devs front-end sont bien contents quand même et ça les aide quand même encore plus.
D'accord. Okay.
Mais peut-être, c'est vrai ce que tu dis. Enfin, ce que tu dis doit être vrai, mais je pense qu'il reste quand même la valeur ajoutée encore, probablement.
Sur XWiki, oui, vous l'utilisez d'ailleurs. Mais vous avez souffert aussi un peu avec les upgrades de version, il me semble.
De Bootstrap Bootstrap, on est bloqué à Bootstrap 3. On ne peut pas bouger. Ouais. Parce que le problème de Bootstrap, c'est qu'il quand c'était une autre version, 4, il change complètement toutes les propriétés, toutes les ID, pas les ID, les classes CSS. Mmh. Et du coup, quand toi, tu as utilisé ça, et t'as un écosystème, et t'as des extensions et tout, et ils ont utilisé ça dans leur CSS et tout, partout, c'est ton API, ça devient ton API, et tu peux pas casser tout le monde.
D'accord.
Et comme ils ont cassé beaucoup, c'est très dur, beaucoup bloqué. Je crois comprendre que de 4 à 5, c'est plus facile, qu'il y a eu moins de cassures, mais je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Mmh.
Alors, ils mettent en garde, hein, ils mettent bien que c'est une version alpha qui aura encore des breaking changes, et ils parlent effectivement de la mise à jour 4 à 5 qui sera un peu plus smooth, mais bon.
Ce que je reproche à ça, c'est que Bootstrap, c'est bien, mais à chaque fois, ils te font pas un chemin tranquille d'upgrade, en fait. C'est bien quand tu démarres. Hein. Tu démarres un nouveau projet, tu prends la dernière version, ça va, tout va bien. En revanche, quand tu l'as dans la durée, c'est pas forcément si simple, en fait. Bon, c'est un choix, mais du coup, ça veut dire que quand tu t'engages avec ça, il faut savoir que t'as potentiellement... tu vas galérer dans la suite et tu vas upgrader. Ou pas, ça dépend vraiment si t'exposes ou pas ça, en fait. Hein. Je crois que le problème pour nous, c'est vraiment qu'on est un environnement de développement et que du coup, non seulement sur les API, avec des API Java, back-end, mais aussi avec des API front-end, c'est-à-dire avec des ID, etc., il aurait fallu qu'on masque tout ça avec nos propres classes CSS et qu'on les map sur Bootstrap. Mais du coup, ça perdait l'intérêt. L'idée de partir sur Bootstrap, c'est de dire, c'est un standard. Tout le monde utilise ça, c'est devenu un standard. Donc, utilisons le standard. Et quand le standard est cassé, ça marche plus. Ça remplit plus le rôle, le standard, en fait. C'est un peu notre souci. Donc, ça, c'était côté web. Si on poursuit côté data, infrastructure data, il y a eu l'annonce qu'Oracle... mettait une version community de Coherence. Coherence, c'était le cache librairie de cache distribuée.
Créée par Monsieur Cameron Purdy.
Exactement. Ouais, que moi, j'avais testé, j'ai testé ça en 2001, je crois, par là. Effectivement, c'était assez fabuleux à l'époque.
C'était une map. Un super produit. Hein.
C'était juste une map, utilisation, mais aussi facile que possible. Tu avais une map Java, et puis tout d'un coup, voilà, c'était distribué, un cache, etc. Je ne sais pas comment ça a évolué. Quand j'ai vu l'annonce, là, je me suis dit, tiens, bah, ça existe encore et tout. Je ne savais pas, en fait.
Oui, parce que c'est vrai qu'Oracle avait racheté ça assez cher à l'époque. Hein. Ça remonte à longtemps, donc les prix n'étaient pas les mêmes. Et c'est pour ça que Cameron Purdy a pris le lead après chez Oracle, jusqu'à ce qu'il parte. Et c'est vrai que c'était devenu le produit phare d'Oracle. Ils avaient même, enfin, on parlait vachement moins de Weblo, et Coherence coûtait très très cher à l'époque. Je sais pas si c'est encore le cas, mais oui, moi je le voyais plus trop. Et comme toi, lorsque j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ah mais oui, l'outil existe encore en fait. Et maintenant ils ont une version community, donc open source, etc., etc.
Et donc community, mais ça veut dire qu'il y a aussi une version enterprise, donc qui continuera d'être proposée également avec des fonctions avancées et tout ça.
Oh oui, tu penses bien.
Ben oui.
Ok, passons à l'outillage maintenant. Donc côté Maven notamment, nous avons un plugin, une nouvelle version d'un plugin AsciiDoc.
Ouais, ça, c'est moi qui l'ai mis, moi, ça. C'est moi qui l'ai mis parce que, bah, comme en ce moment, j'écris et j'écris avec AsciiDoc, donc j'ai des centaines de milliers de lignes AsciiDoc. Et puis, j'ai une usine qui va me créer mes PDF, mes HTML, m'agréger des tas de trucs, bah, basés sur du Maven. Le plugin n'avait pas bougé depuis longtemps, alors qu'on avait déjà AsciiDoctor 2 qui était déjà en fait réalisé, et puis le plugin Gradle était à jour, Antora était donc à jour. Il manquait plus que le plugin Maven, donc il vient de sortir. Donc ils ont arrêté le support de Java 7. Par défaut maintenant, si vous spécifiez pas le style, il vous génère plus un docbook mais de l'HTML5, alors qu'initialement c'était l'inverse. Et puis une grosse incompatibilité où j'y ai passé quand même un petit bout de temps, c'est que le plugin 1.x s'attendait à avoir votre AsciiDoc dans SRC main AsciiDoc. Et maintenant, c'est dans src/docs et non plus src/main. C'est insignifiant, mais quand vous en avez partout, eh ben, il faut refactorer. Donc voilà, si vous voulez passer au plugin 2, sachez que vous aurez un peu de refactoring à faire. Ça ne génère plus du docbook, mais de l'HTML5, et c'est plus dans l'SRC main, mais dans SRC docs. Voilà. Et puis, bah, comme on est dans AsciiDoc, il faut savoir que depuis quelques mois, il y a une proposition de spécification. On a pas mal parlé spec là, en fait, aujourd'hui, puisque on a même vu que l'histoire de Groovy, il y a un moment donné de l'histoire de Groovy, ils se sont dit, et si on crée une spec? Et AsciiDoc est en train de faire ça, je crois, depuis le mois d'avril. Donc c'est dans la fondation Eclipse, et l'idée c'est de spécifier le langage pour celles et ceux qui font du Markdown. Bah, vous savez très très bien que Markdown, la spec elle fait une page.
Pas tout à fait vrai. Ça dépend si tu parles de Markdown ou de Common Markdown. Ouais.
Voilà. En plus, oui, tout à fait.
Ce qui est une vraie, pour Common Markdown, pour le coup, il y a une spec bien documentée, etc.
Et donc voilà, là ça serait faire une spec dans la fondation Eclipse, avec, je pense, comme disait Guillaume, hein, pour le langage Groovy, avoir différents outils qui pourraient interpréter le langage. Voilà, alors quand on regarde la spec, il y a quand même bien sûr Dan Allen, hein, mais il y a quand même Red Hat, CloudBees, Pivotal, donc pas mal de boîtes qui utilisent énormément AsciiDoc et qui se sont mis autour de cette spécification.
Voilà pour la partie documentation.
Si seulement ils pouvaient fournir un parseur.
Un parseur,
voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils savent faire du rendering, la conversion, mais le parsing est très interne et tu ne peux pas l'utiliser, toi, si tu as envie de... Du coup, par exemple, toi-même, tu veux écrire une conversion d'ASCII-DOC vers autre chose, et ben c'est compliqué parce que tu n'as qu'un parseur à un niveau, très haut niveau, tu as des gros blocs, mais tout ce qui est inline, tous les éléments inline que tu veux parser, ben, il n'y a pas de parseur pour ça. Et du coup, ben, il faudrait que tu réécrives toi-même le parseur, et donc c'est très galère, et donc on ne le fait pas. Et je pense que ça aiderait bien encore la diffusion d'ASCII-DOC encore plus s'il y avait ça, parce que ça permet de l'intégrer dans d'autres outils et l'utiliser encore plus.
Si ça existait,
je l'intégrerais à XWiki tout de suite parce qu'on supporte plein de langages, plein de markup, et j'aimerais bien supporter ASCII-DOC, mais tant qu'il n'y a pas ça, je ne veux pas le faire.
Et bah, il faut que tu fasses partie de la spec. Allez, bim.
Ouais, alors ceci dit, j'en ai discuté avec Adam Allen depuis des années, hein. Il me dit ça viendra. Bon, ça doit faire quoi maintenant, 8 ans? Je ne sais pas, peut-être moins. Ouais, ça viendra sûrement, mais bon. J'espère que dans cette initiative, c'est un prérequis pour ça et que derrière, ça arrivera. Ce serait bien. Donc, nous venons de finir la partie news sur l'infrastructure et nous allons passer direct à la dernière rubrique, c'est-à-dire les conférences. En ce moment, on va
se faire un peu particulier.
Bah oui, c'est très particulier en ce moment. Il y en a beaucoup d'annulés, mais il y en a quelques farouches organisateurs qui essayent de faire ça à distance. Donc, oui. Il y a eu notamment récemment, moi j'ai participé au W2Con qui était à distance. C'était pas mal du tout, c'est bien organisé. Et là, il y en a une nouvelle aussi qui est G-Nation Virtual Conference. Moi, je ne connais pas G-Nation.
G-Nation, c'est une conférence assez jeune, puisque je crois que c'est la troisième année. Enfin, c'était la troisième année, puisque ça date du mois de mai, il me semble. Une conférence d'une journée. Ils voulaient l'étendre à deux, mais bon, le Covid cette année, voilà. Au Portugal, ce sont des conférences en anglais. L'année dernière, ils avaient eu jusqu'à 1000 personnes. Et ils se sont dit, on avait notre call for paper, on avait tout le monde. Et ils se sont lancés dans une virtual conf, et ça a pas marché. Et ils ont tout mis sur YouTube, donc vous avez une quarantaine de vidéos. Mais ils l'ont fait, et vous avez les vidéos en ligne, voilà.
Alors, je ne sais pas comment ils l'ont fait, eux. Nous, pour OWCon, c'était intéressant, c'était que les speakers donc, devaient s'enregistrer à l'avance, donc genre un mois avant la conférence, et on avait donc un temps imparti, on devait faire ça en 15-20 minutes, des petites sessions comme ça, et du coup, et on soumettait ça largement à l'avance, donc, et du coup, le jour J, en fait, elles étaient jouées les unes après les autres. Donc c'était très tranquille, en fait, pour les speakers. T'as pas le stress de la conférence, etc. T'as tantôt qui est joué et t'es toi disponible pour répondre aux questions en live ou après. Et c'était la première fois que je faisais ça. Je trouvais ça intéressant.
Ouais, bah moi pour la conférence là que nous on avait organisée, enfin mon équipe d'Evrel chez Google Cloud en particulier, effectivement on avait fait ça. Enfin, j'ai fait deux sessions. Il y avait un atelier où je l'ai fait en live comme normal, quoi, on va dire. Mais il y avait une de mes sessions, enfin et toutes les autres sessions en tout cas, étaient effectivement enregistrées. Et du coup, on était là pour pouvoir répondre en même temps aux gens qui se posaient des questions pendant que tu présentais un truc. J'ai trouvé ça
intéressant, oui.
Ouais, pas intéressant. Mal. Et c'est un truc que tu peux pas faire forcément, à part interrompre le speaker, tu vois, en pleine conférence. Et attends, j'ai un truc à dire. Tu rajoutes des liens, au moment où tu parles d'un truc, toi dans le chat, pof, tu rajoutes le lien à ce moment-là pour dire, bah tiens, pour ceux qui veulent explorer plus, voici le lien de la documentation, je ne sais quoi, tu vois. Et j'ai trouvé ça pas mal.
Tiens, ben moi, hier, j'ai participé à une nouveauté aussi. La société Ipon se lance dans une chaîne de codage sur Twitch. que je ne connaissais pas. Donc c'était la première hier et ils m'ont invité parce qu'il y a toujours un guest. Donc moi je connaissais pas Twitch. Je sais pas si vous connaissiez.
Ah
vous,
moi mais... je connais très bien. Ah,
ouais. Les gamers, les voilà. Du jeu, ils connaissent. Ah, oui.
Mais voilà, j'étais surpris parce que j'ai découvert que c'était une chaîne plutôt de gamers en fait. Mais non, il y a des gens qui tapent du code live. Alors ça fait que du live parce que la vidéo reste en ligne mais que 15 jours et puis après ils suppriment. Donc c'est essentiellement live et il y a d'autres chaînes où tu vois des développeuses et des développeurs en train de coder et tu les suis en fait. Ce qui est perturbant, c'est que quand tu codes, il faut que tu parles. Donc tu es tout chiant, seul ouais. face à ton IDE, mais il faut que tu parles, il faut que tu animes et c'est interactif, donc les gens chattent. Il faut répondre au chat, coder, enfin c'est pas facile. Voilà, donc est-ce que on va voir de plus en plus de chaînes de codeuses et de codeurs en train de développer live.
Moi j'ai plein de collègues qui font ça, qui font du codage live comme ça.
Ah ouais,
sur Twitch. Ouais. Donc non c'est vraiment un truc.
Bon, après, bah voilà.
Je sais pas, moi je trouve ça un peu. Bon, je suis pas très vidéo, alors tout ce qui est chaîne YouTube, les YouTube Live, les Twitch, les. Attends, il y a d'autres trucs encore. J'ai un peu de mal à regarder. Moi j'aime bien pouvoir. Tu sais, tu scannes le texte et tu vois s'il y a un truc qui t'intéresse. Là, une vidéo, tu sais pas si ça va être intéressant ou pas. Moi j'ai un peu de mal.
T'es un peu seul, hein.
Mais la nouvelle génération est très vidéo, quoi.
Ouais, mais t'es un peu seul parce que tu fais ton coding, etc. Tu parles. Toi, t'as pas le retour, en fait. Donc tu parles dans le vide.
Ah oui et non.
Et puis t'as les gens qui écrivent. Et t'as les gens qui écrivent.
Voilà.
Mais du coup, faut que tu relèves les yeux. Quand tu codes, tu regardes pas. Donc tu parles tout seul et puis au bout de toutes les 5 minutes, j'en sais rien, tu regardes un petit coup d'œil. Parce que les gens disent des trucs. Voilà. Et j'avais regardé David comme ça pendant un certain temps.
Ouais.
Et c'était marrant. Mais c'est un exercice pas facile en fait.
Ouais. C'est un peu intimidant. Moi, je voudrais essayer, je voudrais m'y mettre, mais j'ose pas.
Voilà ce qu'il y avait à dire. Ah sinon, dans les conférences, BDX IO est annulé aussi. Bon.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, on va sans doute en voir d'autres encore annulés. Ouais. On ne sait pas trop comment ça va se passer encore la rentrée.
Au fait, donc, le Jug Summer Camp, il est maintenu ?
Bah, a priori, oui. J'ai pas vu de... Enfin, je ne crois pas avoir vu de news. Maintenant que tu dis ça, j'ai un doute là. Jug Summer Camp...
On se retrouve le 11 septembre 2020 à La Rochelle. Ah bah oui.
Pour le moment, oui, on va dire. Mais parce qu'on ne sait pas trop.
Fingers crossed.
Voilà.
Ouais. Pas facile.
Donc, ouais. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Bon week-end. Et voilà, soyez, continuez à être prudents en ce moment.
Mettez votre masque, protégez-vous bien.
Faites plein de travail remote.
Et vive le travail remote.
Voilà. Ciao, ciao.
Allez, gros bisous.
Bonjour tout le monde.
Ciao. Bye.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com. podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr